Salut Mermet, c'est Pierre là. J'habite au fin fond du Périgord, dans une clairière au milieu des bois, et ce soir j'écoute ton reportage sur Bois d'Arcy, et t'as réussi une chose magnifique, à me faire flipper comme un malade. Même pas sur le reportage, sur le son derrière, sur le son. Ça te... C'est... Si tu veux dissuader les gens d'aller en prison, continue comme ça, et puis moi ça me fait flipper à mort. Merci Mermet de me faire flipper au milieu de ma campagne. Ciao les mecs, bon courage et continuez, c'est super.
J'ai plutôt envie de pleurer. Je suis en train d'écouter l'émission et puis purée, mais c'est pas possible. Moi j'ai 3 garçons. Je sais ce que j'ai passé pour certaines choses et l'amour inconditionnel, comme on disait, et ces mômes-là, bah, l'amour, ils l'ont sûrement pas eu, et puis plein de choses. Ce qui ne veut pas dire de faire de l'angélisme, parce que de toute façon, c'est évident qu'il faut punir quand quelque chose ne va pas. Mais c'est pas en enfermant un môme de 14, 15, 16 ans qu'on va arriver à faire quelque chose. Ça va faire des bêtes sauvages. Alors c'est en amont. Pourquoi on a autant de mômes comme ça, qu'ils soient issus de l'immigration ou pas, mais je vois pas où, qu'est-ce que ça change. Ce sont des enfants, ce sont des jeunes. C'est affolant de voir comme que dans notre pays, pays des droits de l'homme, on en arrive là, mais je pense que c'est parce que chacun fait pas son boulot, c'est les parents qui font pas leur boulot, c'est les enseignants, certains qui font pas leur boulot, et je sais que c'est vrai ça aussi. J'ai bien vu certains comment ça se comportait dans les lycées, collèges, écoles primaires où j'ai passé un peu de temps. Enfin bon, c'est affolant, il faut trouver une solution. Daniel, tu avais reçu Monsieur Rosenzweig une fois, je m'en rappelle, je l'avais vu à la télévision. Je suis sûre qu'on peut faire des choses, les petits ruisseaux font les grandes rivières, que chacun d'entre nous, à son niveau, ou déjà en tant que parent, essaye de faire ce qu'il doit faire et pas n'importe quoi. Et puis, puisqu'on parle des marques et tout ça, effectivement, le consumérisme et tout ce qu'on veut dont on parlait hier soir sur France Inter, bah, que chacun de nous se regarde un peu le nombril à son niveau, riche, pas riche, intelligent, pas très intelligent. J'ai vu le film de Pierre Karl aussi, là, la semaine dernière. J'étais franchement énervée parce que cette société d'assistanat, c'est pas non plus la solution. Enfin, il y a du boulot. Voilà.
Bonjour Daniel. Dans votre émission d'hier, le cri de ce jeune en prison me faisait mal et me faisait penser à un animal en cage qui va sans cesse d'une cloison à l'autre, enivré par l'emprisonnement. Mais que faisons-nous à nos enfants? Quelle génération sommes-nous en train de fabriquer? Prison, enfermement, ces politiques sont-ils en train de nous préparer leur établissement de la peine de mort? Et Le Pen aurait-il pu aller aussi loin dans toutes les transformations policières, sociales, judiciaires que le gouvernement actuel, avec l'accord enthousiaste de l'UMP et UDF, car qui n'est pas contre est pour? Je ne crois pas. Je crois que depuis longtemps, les Français seraient redescendus dans la rue. Alors, que se passe-t-il donc en France? On dort? On dort?
J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt votre émission. Je vais vous dire une chose. Moi, je suis un peu sidérée que l'humanité ne bouge pas plus. Ces gosses qu'on a entendus hurler, crier, se débattre, eux, ils ont encore la force de gueuler. Mais nous, les moutons, mutins, on nous ferme la gueule. Voilà. Bonsoir, je vous aime beaucoup. Nicole Offray.
Merci Nicole, merci à tous pour vos messages. Suite à l'émission d'hier, on reste aujourd'hui à Bois d'Arcy, dans le secteur des mineurs de cette maison d'arrêt de Bois d'Arcy. On avait très peur hier, après l'émission, on s'est dit, oh là là, il va y avoir amalgame, il va y avoir généralisation, les auditeurs vont penser que tous les jeunes sont comme ceux de ce centre de pour jeunes. Eh ben non, pas du tout. Vous avez pigé, on est très contents. L'air de rien, parce qu'on aurait pu, ça aurait pu être tout à fait contre-productif. Et donc vous avez très bien compris, enfin d'après les messages qu'on a reçus, pas trop se faire d'illusions non plus, mais enfin bon, en tous les cas, à travers les messages, vous avez très bien compris ce qu'on a avec Guy Vanquil essayé de montrer, c'est la vie tout simplement dans une prison qui n'est pas pire qu'une autre, sans doute. Au contraire, même ces prisons dans lesquelles les journalistes sont acceptés. Donc, on peut supposer que dans d'autres, ça se passe pas tout à fait de la même façon. Et non seulement on peut le supposer, mais on le sait sans y être. Même, allez. Donc, vous avez compris. Aujourd'hui, on est avec cette quarantaine de mineurs délinquants de la maison d'arrêt de Bois d'Arcy. Autre message sur le répondeur de la basse ici auparavant, le numéro vous le connaissez, 01 56 40 37 37.
Vernier Antoine, né en 1860, jugé en 1875 pour vol et condamné à la maison de correction jusqu'à 20 ans, 1m48, cheveux châtains, yeux gris, nez gros et court, fossette au menton, teint clair, cicatrice au front, une autre sous la mâchoire, vêtements hors d'usage, a déposé 0 francs 66 au greffe, mauvaise nature, mœurs déplorables, a appris à lire, écrire, calculer. Bousquet François Xavier, condamné jusqu'à 18 ans, arrêté à 10 ans pour vol simple. Tout en lui est ordinaire, sauf les narines qu'il a dilatées. Montel Louis, né en 1866, jugé en 1875 et condamné à la maison de correction jusqu'à 18 ans, 1m10, cheveux châtains très clairs, yeux bleus, cicatrice d'écrouelle en dessous de l'oreille gauche, caractère mauvais, a été incarcéré un mois à la demande de sa mère qui ne pouvait le maîtriser, pas de sentiments religieux, mauvaise nature, mœurs détestables, toujours puni, intelligent mais paresseux, héros Émile Aveyron, élevé par l'hospice de Millau, arrêté à 12 ans pour vol et vagabondage, les frères Patron, Pierre et Jean, pour le vol et
Vous êtes là, vous êtes là. On la Bois d'Arcy là. On est dans le but des rois. Ouais, mais c'est la merde. On est dans le but des rois. Ouais, mais c'est la merde.
Alain, 7. Germain.
J'ai essayé 1000 lettres.
Avec quel mot?
Salut, c'est Daniel Mermet avec Guy Vantil. Là-bas, si j'y suis, peine perdue.
5 heures! Où tu fais tes bois d'assises et tu passes la merde.
Arriving from New York.
C'est facile de faire rentrer du pédo. C'est le secret de la prison.
Il faut de la magie.
Faut être mal. Faut pas trop ouvrir sa bouche.
Mais nous, mineurs, on n'a pas besoin de faire rentrer.
On demande au majeur et ça y est. Ce qu'on vend là, on prend de ça, on les appelle, ils sont à la fenêtre, ils balancent un yo-yo et ça y est, t'as tout ce que tu veux.
C'est malheureux à dire, mais entre 4-5 passages au quartier mineur, après c'est le bâtiment adulte, et voilà quoi, c'est une carrière pénitentiaire, mais de l'autre côté des barreaux, parallèle à la nôtre quoi.
C'est la loi de la jungle. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est la loi de la jungle.
La prison, c'est pas dur. La prison, c'est la pression.
Allons faire victimer ! Bande de victimes !
Chez les adultes, on peut régler le problème. Quand on dit on a le D4.
C'est le D4, c'est quartier disciplinaire.
Voilà, mais ça, faut être majeur. Mais pour les mineurs, on peut pas. Donc, on tient avec ça, entre le... Faut parler, puis des fois ça marche pas.
J'ai quelques petites soupapes pour pas que la cocotte explose, mais à un moment donné, quand on peut plus dire oui ou on peut plus expliquer, la cocotte elle saute.
Moi je connais des mecs comme là je vais dans mes quartiers, ils parlent toujours comme s'ils sont en prison. Même des mecs tellement ils sont habitués à y aller là-bas, ils me disent quoi? Ah putain, je voudrais bien faire un mois, deux mois, voir quelques potes à moi et vite faire ressortir. Les mecs comme ça, c'est eux que la prison, ça leur a traumatisé.
déployer demain des services de police massivement dans le quartier de la Défense, non pas pour regarder ce qui se passe dans les cages d'escalier, mais dans les bureaux des entreprises qui y sont, on va voir un afflux massif de gens qui vont être incarcérés pour fraude fiscale, fraude infraction communautaire, etc. Nous avons aujourd'hui 400 inspecteurs du travail en France. Triplons le chiffre et vous verrez que demain, les fraudes aux infractions sur la législation sur le travail vont se multiplier par 3, 5, 10 et on pourra construire un nouveau stéréotype social de finalement ce qui menace, fait peur et est réellement dangereux pour notre société.
Je me souviens de mon papa qui nous racontait comment il avait, dans son enfance, assisté à une exécution publique. Oui, la guillotine, sur une place. Il était arrivé tenu par la main de son père, et dans le petit matin, il faisait pas encore jour, il est arrivé, il était tout gosse, et voilà. Le jour s'est levé et on l'a coupé le cou d'un homme. Il nous racontait ça, il se souvenait de ça, ça nous semblait tout à fait barbare. Et on voyait notre père enfant face à cette barbarie. Il se pourrait qu'un jour, nos petits-enfants, nos arrière-arrière-petits-enfants peut-être, se souviennent de ce qu'on a vécu nous aujourd'hui, c'est-à-dire la prison, l'emprisonnement. Il se pourrait qu'un jour, la prison disparaisse comme la peine de mort a disparu. Certains font ce rêve, certains poursuivent cette utopie. Aujourd'hui, ils sont pas du tout à la mode. C'est l'inverse qui prévaut, c'est le répressif, c'est l'enfermement, c'est la punition. Néanmoins, on a cette habitude, dans la base jésuite, d'aller un peu à contre-courant. Nous voilà à Bois d'Arcy, dans cette maison d'arrêt pour hommes, qui reçoit des prévenus qui ne sont pas encore jugés, où se trouvent 672 détenus, des hommes, dans un pavillon, à part des jeunes mineurs, qui sont au nombre de 39, dans un autre secteur. On va voir que c'est pas aussi étanche que ça, parce que le coiffeur qu'on va voir aujourd'hui, c'est un adulte qui vient de l'autre partie. Ils ont de 13 à 17 ans, la quasi-totalité sont des Français d'origine étrangère. Les raisons de leur incarcération, il y a des viols en réunion, il y a du vol avec violence, il y a meurtre, trafic, drogue, trafic divers, tout ça est amalgamé dans un seul et même bâtiment. On a été, je l'ai dit hier, bien reçu dans cet établissement, direction qui a accepté que nous puissions séjourner, des journées entières, c'est ce qu'a fait Guy Vantil, y compris la nuit. On a été bien reçu aussi par les surveillants, les éducateurs qu'on va retrouver. Et puis aussi, finalement, par les jeunes, par les détenus. C'est une heure que nous dédions à Areski, un jeune qui a séjourné dans cette prison et qui, un matin, a été retrouvé pendu avec la rallonge de son téléviseur. Allez, écoutez tout. Allez, écoutez tout.
Allez, écoutez tout. J'ai fait l'inventaire de mon aventure. En déduit ici, c'est se taire derrière leur devanture. J'ai fait le tour de la question et les questions me tournent autour. J'ai les tarés, un parcours d'embrouille, un milieu du soleil, des tartares et des pourtours. Pourtant par terre, autant d'entraves, trop peu d'entraide. Et entre temps, la plupart des autres qui s'entretuent. Mon constat est béant et aberrant. Jeune bandit apeuré, les yeux sous bandeau, prêt à pleurer. Allez écouter, on est tous du mauvais côté.
Du mauvais quota,
persona non grata.
Venu juste pour les crater.
Ingrat, écrit et raté.
Ta grenouille est raton.
Immigré à dénigrer et à sous le bâton.
Un baptême d'hématome.
Ayant pour thème amertume, blessure intime et chrysanthème.
Deux êtres, un titre.
Deuxième chapitre.
Spécial homicide.
Docteur en lettres.
Endoctrinant par litre.
J'accumule les frustrations. Le stress et les sales pulsions. À chaque pulsation, dans toutes les situations, je suis coupable idéal. Je suis
suspect usuel. Dans mon monde, la répression n'a rien de virtuel. On m'a demandé d'oublier qu'il y avait des champs de Camapana, mais je suis blessé dans mon ego et séquestré dans le ghetto, considéré comme un apprenti terroriste. Moins des d'accord récidivistes par les journalistes à écouter ces brels, mais c'est qu'elles seraient irrémédiables. Et je ferais mieux de venir avec eux et des feux que prier le diable. Les gars comme moi marchent avec des pilules de cyanure et qui prend les racailles aussi comme être des bavures. Toute la merde dans un monde où les rapaces portent des costards et où les pauvres connes peuvent devenir des pop stars. Je suis un cauchemar qui se propage comme une rumeur avec des textes qui font rock parce qu'ils parlent au peuple.
Donc voilà, ici on a un tableau détention jeune. Donc on a les mineurs qui sont situés donc au premier étage. Alors au niveau de la légende aussi, on a ces petits trombones de couleur qui servent à repérer les moins de 16 ans.
Alors il y en a un là, 87, 87, 87, 4, 5 et 6. Donc 6 qui ont...
moins de 16 ans. Non, c'est pas vieux, sont des jeunes. Ça va du vol aux affaires rumeurs, dans les tournantes le plus souvent. Vol aggravé. Bon, je soulève quelques étiquettes. Hein. Vol aggravé par deux circonstances.
Lui, il va bientôt avoir 18 ans.
Extorsion commise avec une arme. Vol en réunion, séquestration. Vol avec violence. Vol avec arme. Viol en réunion. Vol en bande organisée avec arme. Assassinat. Vol avec arme. Séjour régulier. Session non autorisée de stupéfiants. Oui, ça, c'est un des...
Dealer ?
Oui. Tentative d'assassinat.
Lui, là, 16 ans.
Rébellion, violence aggravée. Donc on voit qu'il y a quand même des affaires qui sont conséquentes, là. Hein. Qu'il y a une majorité des procédures criminelles, quand même, hein, pour des affaires graves. Ensuite, on a les primaires, récidivistes.
Second passage,
au moins, en établissement. Moi, j'en ai vu revenir 7-8 fois, hein, en tant que mineur. Ensuite, on les perd de vue, parce que quand ils reviennent, quand ils reviennent, ils vont au grand quartier. Donc là, j'en recroise encore certains qu'on a eu comme mineurs. Actuellement, on est sur un quartier mineur relativement calme.
Ça veut dire quoi, relativement calme?
Relativement calme. Bon, les mineurs, c'est toujours un peu perturbé. Hein, c'est toujours dans la provocation, surtout les jeunes qu'on a de nos jours. Hein, on a le reflet un petit peu de ce qui se passe dans les banlieues. En prison, c'est les plus durs de ceux qui sont dehors, qui se retrouvent en établissement pénitentiaire. Donc relativement calme, c'est clair que c'est quand même une poudrière, hein, que ce soit un quartier mineur ou une détention en général. Et le moindre problème peut déclencher des incidents conséquents.
Il s'appelle 78, il s'appelle 91, il s'appelle Trapp, il s'appelle Chartres, il s'appelle Dreux, c'est leur quartier, c'est leur coin, c'est leur banlieue, le 9-3, c'est le 9 cube. Voilà, on est avec Areski, là, qu'on vient d'entendre, le surveillant général. Oui, c'est une cocotte minute, c'est une poudrière. On a vu hier dans le reportage de Guy Van Til une bagarre, un surveillant agressé par des mineurs, par trois mineurs. Je redonne des chiffres, hein, pour situer un peu le sujet. Le nombre des mineurs confrontés à la justice connaît une véritable explosion. Je cite la presse. En 2001, 75 000 décisions et condamnations étaient prononcées par des tribunaux et juges pour enfants contre 35 000 il y a 10 ans. Donc il y a un doublement de ces condamnations. Ça ne veut pas du tout dire que la criminalité augmente. Ça veut dire qu'on condamne plus. Hein, c'est pas forcément suite à une augmentation de la criminalité chez les mineurs. En 2001, 4000 mineurs ont été incarcérés pour des durées variables, soit deux fois plus qu'en 1990. Ils sont actuellement en permanence, disons, au cours d'une année, autour de 700 dans des établissements comparables à celui où nous nous trouvons à Bois d'Arcy. Et il y a un chiffre qui revient tout le temps et qui est sans doute le plus important, c'est la récidive. Et plus de 75% de ces jeunes récidive. Alors, Rapidement, Areski a évoqué les raisons des incarcérations pour donner une idée des infractions. Il s'agit de gens en détention provisoire, mais les infractions qui leur valent d'être là en attente d'un jugement sont en grande majorité sur 100 infractions. Hein, c'est plus de 50% sont des vols avec recel, environ 6% sont des vols avec vols criminels, c'est une catégorie. Concernant la police des étrangers, délits sur armes, c'est 1%, délits contre des personnes, y compris stupéfiants, c'est 23%, mœurs 7%, autres délits 13%. C'est, ce que je vous dis là est un peu flou, mais enfin, ce qui est à retenir, c'est quand même que l'essentiel des infractions concerne des vols avec recel sur des biens. Il y a bien sûr des viols, il y a des crimes, il y a on n'est pas chez les anges, on n'est pas chez des enfants de cœur, même si toutes les infractions et les délits se trouvent mêlés dans un même endroit. Alors aujourd'hui, on a avec nous Laurent Bonelli, qui est chercheur en sciences politiques au groupe d'analyse politique de l'université Paris 10 Nanterre et au centre d'études sur les conflits, et qui est avec Gilles Senati, l'auteur de La machine à punir à l'esprit frappeur.
Je viens du 9-1. 3-5-0, Green Gant Blanc,
c'était Dum, voilà.
Astérix 9-3 en Éal.
C'est pourri, voilà, si.
C'est classe à Koulibé, Malco,
Chantou.
Ça va être une culture musicale, le rap, une culture vestimentaire. Ça va être l'exaltation du bled. Et effectivement, une des formes de solidarité, je dirais, territoriale plus qu'ethnique. Effectivement, l'affiliation se fait essentiellement par cage d'escalier, par immeuble. On est avec ceux qui vivent dans le même immeuble. Donc vous avez cette identité qui se bricole et qui fait une identité qui s'oppose à l'ancienne identité populaire de ces quartiers-là. C'est-à-dire que c'est une identité qui s'oppose assez frontalement, finalement, par exemple, à la culture ouvrière. Pour la simple raison que le travail qui était central dans la culture ouvrière, et c'était aussi ce qui structurait, finalement, l'ensemble de la vie, politique, syndicale, culturelle, tout cela tourné autour de ce monde du travail-là, ne se retrouve ni de près ni de loin dans la culture de ces jeunes-là. Donc vous avez effectivement des affrontements, je dirais, de systèmes de valeurs extraordinairement forts entre, je dirais, les vieux ouvriers et ces jeunes sans avenir. Et cet affrontement de systèmes de valeurs, là où auparavant on avait une transmission du système de valeurs, les enfants d'ouvriers devenaient ouvriers et se transmettaient les valeurs du système ouvrier. Aujourd'hui, vous avez y compris des parents immigrés, par exemple, qui étaient ouvriers, ne transmettent pas à leurs enfants les valeurs d'ouvriers, qui ne le seront pas. Et cet affrontement de systèmes de valeurs va générer des formes de tension au quotidien, des formes de malaise au quotidien, qui sera souvent enregistrée comme la question du sentiment d'insécurité.
Ce qui se passait dans la cour des mineurs, il y a eu un coup de chaud intérieurement.
T'as vu entre qui et qui c'était, non?
Ouais, c'est l'arrivée.
C'est avec l'arrivée, non?
C'est assez nouveau, lui, c'est celui qui est arrivé cette nuit.
Ouais, oui.
Et déjà, il y a des tensions.
Voilà, tout à fait. Il y en a qui sont bien installés sur place et puis qui ont leur repère, qui ont leur terrain, hein, même si c'est pas la même bande qu'à l'extérieur, mais il y a toujours le phénomène de bande qui se reconstitue. Donc, à partir de ce moment-là, c'est un petit peu chez les jeunes, c'est un petit peu la loi du plus fort. Donc, les derniers arrivés, ils sont testés pour voir un petit peu ce que ça peut donner.
C'est vrai qu'on voit que le dernier arrivé qui a l'avantage pour lui de pas être un gringalet, mais là, on le voit dans la promenade, il est à l'écart des autres, quoi. Il fait les 100 pas, il tourne, il regarde. Alors voilà. Et là, ça recommence un coup de latte, quoi. Hop, des coups, deux autres se mettent en cercle, deux qui interviennent. Le nouveau venu lui montre qu'il a pas peur, coup de latte. Les autres se mettent sur le côté. Ils sont à deux contre un.
T'as vu ça, hein? C'est dangereux. C'est un nouveau. Il s'est fait gazer, il a gazé avec les autres, il s'est fait taper.
Et pourquoi il s'est fait taper?
Avec le chapat, il a gazé. Il s'est fait taper maintenant. Il a sorti son couteau dans les noms, j'ai pas dit que vous gazez. Ouais, mais ils ont sauté.
Ça veut dire quoi gazer?
Cherche.
Et puis là, il y a, du coup, il y a 2, 4, 6, 8, 10, 12 surveillants qui ont dû intervenir pour les séparer, quoi.
Bien.
Bon, ça va, jeune homme?
Ouais,
hein? Okay. Tu vas venir me voir dans le bureau, on va discuter un peu.
Il y a une casquette là qui est dans la cour. Là.
Bon, viens dans le bureau,
on va discuter un peu.
C'est pas. De toute façon, t'as pas le choix, hein. Si tu viens me voir, il y a eu un incident, là, il faut qu'on discute ensemble.
T'avais un bon incident.
C'est quoi le chemin? Bon, ça va? Décompresse un petit peu, là, parce que t'es tendu, hein. Après une bagarre, on est toujours tendu, hein.
C'est même pas une bagarre, ça.
Oh, c'est un petit accrochage, disons, hein. Bon, explique-moi un petit peu ce qu'il voulait, là. Pourquoi vous êtes battu?
Je sais
pas. Voilà. Vous êtes pas battu pour rien, là, quand même. On se met pas des coups pour rien. Hein? Dis voir. Alors, explique-moi un petit peu ce qui s'est passé, quand même. Tu peux fermer la porte, s'il te plaît?
C'est rien passé.
Hein?
C'est rien passé.
Explique-moi, quand même.
Moi, j'ai rien à expliquer.
Hein? Pourquoi? Explique-moi un peu, quand même, pourquoi vous êtes battu. Bah, tiens, on peut y passer l'après-midi, là.
Je suis là jusqu'à je crois combien de temps, c'est là où dans moi c'est la même chose. Hein.
Ah ouais, je sais bien. Alors, enfin, moi j'ai pas que ça à faire. Qui a commencé déjà? C'est toi qui a frappé en premier? Et pour quelle raison? J'arrive pas à comprendre ça, vous êtes déjà en galère ici enfermé. Et vous trouvez le moyen de vous frapper dessus. Donc là, on est dans le cas de figure bah, que je disais tout à l'heure. Hein. Il y avait un incident, puis c'est les autres qui ont pris la relève. Un peu pour venger celui qui a eu le problème. Donc il y a cette solidarité qui a joué, et le phénomène du groupe toujours. Tu veux toujours garder ta petite mentalité de délinquant, là. J'ai rien vu, j'ai rien entendu. Hein. Les autres vont te charger à fond, et puis tu risques de passer en commission de discipline. Allô?
Non plus, on va s'expliquer.
Lequel?
Le premier.
Le premier qui était là-haut? Dis-moi déjà ce qui s'est passé.
Appelez-le.
Non, je t'appellerai après.
Alors,
j'en conclue que c'était pas un problème tout récent. C'était prévu cette bagarre déjà depuis l'étage. Tu descends qu'un couteau, en général, c'est prémédité.
Ils sont toujours avec un couteau.
Et pourquoi? Parce que c'était chaud pour toi déjà?
Non.
Ouais. Mais quand on descend qu'un couteau, c'est qu'on a quelque chose à craindre. D'accord avec moi ou pas?
Hein? C'est la jungle.
C'est la jungle? Non, c'est pas la jungle ici. Ici, c'est un établissement pénitentiaire. Et je suis là pour éviter justement que ce soit la jungle.
Oui, Areski, le surveillant chef, est là pour éviter que ce soit la jungle. On peut pas douter que ce soit un homme de bonne volonté. Mais enfin, il est quand même un peu seul. Même s'il y a évidemment d'autres surveillants, il y a des éducateurs. Mais comment pourrait-il, à lui tout seul, abolir ce qui est à l'intérieur de cet établissement et qui reflète ce qui est à l'extérieur dans la vie de ces jeunes, dans leur cité, où c'est aussi la loi de la jungle, au moins dans les quartiers où ils vivent. Et évidemment, il faut tout de suite dire que cette loi de la jungle n'est pas naturelle, n'est pas issue de... ne vient pas de nulle part. Cette loi de la jungle a une histoire, a des causes, et c'est à ces causes qu'on va essayer de s'attacher, quoique vous vous doutez bien qu'on les connaît tous, ces causes qui sont le chômage, les problèmes sociaux, les problèmes familiaux, tous ces handicaps sociaux que ces jeunes accumulent. Je suis pas en train de faire dans la culture de l'excuse, comme on dit, mais enfin, toutes ces choses-là, nous les savons tous, même si aujourd'hui, ça semble un petit peu oublié au profit de politiques répressives et pour tout dire tout à fait démagogiques. Mais Areski, le surveillant, ne se démonte pas et très héroïquement, il essaye le dialogue.
Arrête de parler, oh. Arrête de parler, je te dis.
Je n'ai pas fait venir.
Moi, tu me prends pour une pute, moi. Tu me prends pour une pute, moi. Baiser ta mère, toi. Tu vas baiser ma mère, toi. Toi, en plus, moi, je mets toutes mes potes, moi.
On est là pour discuter calmement.
Arrête de dire tout, toi. Écoute-moi bien. Tu m'as pour une victime. Les gens, ils lui parlent, ils lui disent que j'ai parlé derrière son dos. Et lui, il prend au sérieux les gens. Non, moi, je peux rien faire pour lui. Je descends en bas, il me prend par la main, il va me ramener. Ça veut dire quoi, ça?
Vas-y, laisse-moi aller là-bas avec lui, s'il te plaît. Hey, regarde, monsieur, laisse-moi aller avec lui, on parle plus tard.
On n'est pas ici pour faire des règlements de compte. On discute, là, c'est comme ça qu'on arrange les choses.
Ça, mais t'es une victime.
C'est qui vient à 3 sur les gens? C'est toi ou c'est moi?
Qui a trois sur les gens?
Si qui est venu à trois, c'est toi, c'est moi.
T'as un mal à toi de parler des trois, moi. Je te dis, moi, je suis seul tout.
Qui est venu à
moi, t'as un photo, moi, je te baisse tout seul ou à trois, c'est la même chose.
Viens, on y va, regarde.
T'as un mal à toi, quoi.
Viens, on va là-bas,
on est quoi, on fait pas de combat de rue, là.
Écoute-moi bien, écoute-moi bien.
Bon, hé, attends, attends.
17 piges, j'ai 15 piges. Moi, je te nique ta race, ma gueule, j'ai 15 piges, ok?
Même si t'as 12 ans, je bouge pas les couilles. Moi, je te piétine, moi.
Tu sais, tu me piétines, toi?
Putain, mec. J'ai rien de parler, parce que les gens, ils vont séparer, tout ça, tu vois ce que je veux dire?
Bon, vas-y, vraiment, parce qu'il veut pas faire d'efforts, vas-y, remonte, remonte à l'étage.
Espèce de sale victime.
Putain.
Bon, tu vas remonter à l'étage?
De toute façon, ça va rien changer, que je change quoi.
Ah si, ça va changer, parce que je peux pas te laisser dans la cour de promenade avec les autres. En prison, on ne se bat pas, comme on ne se bat pas quand on est dehors. Et en plus, en promenade, moi, je te mets en cours de promenade aérienne, à OA3. Tu descendras plus en cours de promenade normale. Alors maintenant tu remontes, pas de stage et viens, hein, à l'étage en face.
Putain.
Allez, tu y vas.
Voilà, une scène ordinaire de la vie ordinaire de ce centre pour mineurs délinquants de Valarcy. Alors bon ben la castagne a fait évidemment son petit effet et chez Selim et Ahmed dans leur cellule, c'est chez eux, on commente une belle bagarre.
Surveille
Aboul.
Aboul, viens raconter cette belle bagarre.
Ah,
il y a
le feu, quoi.
C'est de la... Lui, c'est
Jackson,
celui-là.
Jackie Chan.
Ah,
c'est
un
Il a craint, il avait peur, il dit, vous deux, je vais vous tuer et tout. Il m'a fait montrer du couteau, là, avec son vieux couteau.
Il a dit, je vais vous tuer.
Après, il a essayé de me mettre une pistache.
Une droite.
J'ai reculé. Et après, c'est parti.
On l'a tapé, après, il a plus rien fait.
Et le mec, il était à peine arrivé.
Et c'est un arrivant.
Ouais, bah c'est ça. Les arrivants, voilà, on est tous passés par là.
Arrivant, tout le temps on met la pression sur les arrivants pour rigoler. Et personne joue, même nous on est qu'en arrivant, on nous a mis la pression et tout. Mais c'est pour rigoler, on descend, personne, c'est juste pour leur faire peur. Lui il a voulu faire le fou, moi je m'en fous du vous êtes, je vais vous tuer et tout ça. Il est descendu, il a mangé, hein. Il fallait. Il a mangé les coups, quoi.
Non, voilà, je suis chaud. T'as les bâtards. Comment il veut prendre ça?
La meilleure cellule, hein. On a le canal plus, c'est la chauffage à mort.
C'est ça, le soir, fume de boule. Pense à moi, pense à moi.
C'est ça.
Non.
Est-ce que 22?
C'est le programme. C'est le film de ce soir.
Comment il s'appelle, le film ce soir?
Tentation.
Oh là là,
ça va saigner.
Tentation, film X, qui est pas sur. Alors, c'est quoi l'histoire?
Anne est engagée comme stagiaire dans un hôpital.
Alors,
elle est vite initiée aux mœurs, très libre et de l'établissement. Non, la salope.
Je t'ai même pas dit, je l'ai vu, c'est là.
Oh non, c'est le feu. Elle est bonne, hein.
C'est le soir où tout le monde se paluche, quoi.
Que ces bâtards.
Ouais, c'est pas le Canal Plus.
Ils ont pas eux.
C'est la chambre VIP.
VIP,
si
vous
voulez,
c'est vrai.
Et passe trois fois dans le mois. Bon, les gens.
Vas-y, va vous.
Alors, vous avez le titre à quelle heure? Deux heures, non?
Est-ce que vous avez bon aujourd'hui?
Non, c'est bon.
Ouais,
on finit, après je peux pas.
Cette jeunesse est pourrie depuis le fond du cœur. Les jeunes gens sont malfaisants et paresseux. Ils ne seront jamais comme la jeunesse d'autrefois. Ceux d'aujourd'hui ne seront pas capables de maintenir notre culture. C'est pas des lignes que j'ai lues dans le Figaro ou dans le Nouvel Obs. Non, c'est des lignes qu'on peut lire, des phrases qu'on peut lire sur une poterie d'argile de Babylone datant de 1000 avant Jésus-Christ. Alors, en écoutant tout ça, vous dites, bon, d'accord, ouais, oh, faut bien que jeunesse se passe, comme on dit, et puis, la jeunesse provoque, la jeunesse perturbe, l'équipe est sauvage, West Side Story, souvenons-nous, et puis les blousons noirs, nous avons été blousons noirs, nous qui vous parlons, et puis les Apaches au tournant du siècle, et les loubards des années 70, quelle différence y a-t-il entre ces mineurs délinquants et cette délinquance éternelle, pourrait-on dire, de la jeunesse. Commentaire du sociologue Laurent Bonelli.
On est là, les gars, on est là, voilà, on est là. Ah, voilà, on est là, les gars.
Eh, gardez la pêche, les gars. On est là, on est là. On est dans la merde, c'est ça? Hein?
Oui, alors, je crois qu'il y a une grande tradition de la confrontation des adolescents avec le monde adulte. Je dirais qu'il fait sans doute d'ailleurs partie du rite de passage à l'âge adulte, c'est-à-dire se confronter à l'autorité, se confronter aux normes, etc. À côté de cela, s'il est vrai que les comportements des jeunes d'aujourd'hui ont parfois souvent à voir avec les comportements chez les loubards, ils en sont quand même différents. Et ce qui est essentiellement différent, c'est dans la manière finalement dont ils vont s'arrêter. Pour le dire de manière simple, les loubards, les blousons noirs, qui étaient des jeunes issus des milieux populaires, intégrer, je dirais, les emplois les plus déqualifiés, les emplois sans qualification dans le monde industriel. Ils rentraient à l'usine assez rapidement. Et l'usine, je dirais, loin de s'opposer aux valeurs dont ils étaient porteurs, la violence, l'anti-autorité, intégrait ces valeurs-là. L'anti-autorité, par exemple, a été pendant très longtemps une ressource importante dans le monde politique et syndical. C'était la lutte contre le petit chef, contre le contremaître. C'est-à-dire que vous aviez, si vous voulez, une transmission finalement de valeurs contestataire, qui se prolongeait finalement par une intégration industrielle. Il y avait une forme de dressage, à l'usine, on a beaucoup parlé, Foucault en a beaucoup parlé, les processus disciplinaires. Bon. Aujourd'hui, les jeunes de ces quartiers, qui sont toujours des jeunes des quartiers populaires, qui sont toujours des jeunes sans qualification, n'intégreront pas l'usine. Pour la simple raison que l'emploi industriel a diminué, pour la première chose, automatisation, délocalisation, etc. Et qu'aujourd'hui, les emplois sans qualification qui se crée essentiellement dans les services. C'est-à-dire, c'est les caissières de supermarché, c'est ce genre de choses-là. Tout un tas de travaux qui demandent des comportements de docilité, de politesse, qui s'opposent, je dirais, terme à terme, aux valeurs de rue dont ils peuvent être porteurs. Une des questions centrales qu'on a aujourd'hui, finalement, sur les quartiers populaires, c'est que faire d'une jeunesse sans qualification, qui n'a pas sa place dans notre société, qui n'est pas à sa place, mais qui n'a pas de place dans notre société.
Alors, leur sentiment, c'est d'être en trop. Ce sont des surnuméraires. Qu'est-ce que vous foutez là, quoi, hein?
Alors, ce sentiment de surnuméraire, d'inutile au monde, effectivement, est extraordinairement fort, et génère des sentiments de repli. Alors, repli sur quoi? Repli sur le quartier, et repli surtout sur ceux qui sont comme soi. Parce que être avec ceux qui sont comme soi, c'est se protéger. C'est se protéger de la déqualification professionnelle, de la honte scolaire, de l'exclusion du marché sexuel. Bon, ben si vous êtes avec des gens comme vous, ben vous n'avez pas ce rappel à l'ordre permanent de ceux qui ont réussi à l'école, de ceux qui réussissent professionnellement, etc., etc.
Pensez à quelque chose ou ne pensez à rien, cela m'est égal, mais laissez flotter votre pensée sans effort.
Oh yeah! N'oubliez jamais que les cités sont si sombres tard lorsque la nuit tombe. Et que les jeunes des quartiers n'ont jamais eu peur de la pénombre, profitant même d'elle-telle. Dehors la loi n'ayant pas d'autre choix que de développer une vie parallèle. Business illicite, la survie t'y invite. Comme persuadé de prendre le chemin de la réussite. Mais pour ça qui fait quoi, quelle chance nous a donné l'État? Ne cherchez pas intentionnel et c'est attentat. Laisser l'abandon, une partie des jeunes de la nation ne sera pour la France qu'une la nouvelle amputation. Car quand la faute est faite, la fête est finie. Fini de rire, pire, j'ai peur pour l'avenir. Mais toi qu'as-tu à dire pour contredire mes dires? Je n'invente rien, contrairement à ce que tu peux lire. Pas de brodage dans mes textes, pas de romance. Car je sais que notre pensée peut avoir de l'influence. Quelle solution préconise-t-on? Mieux vaut prévenir que de guérir, dit le dicton. Mais dans ce cas précis, si guérison il y a, souvenez-vous que c'est à nos frais que seront les dégâts.
Va y avoir des gros dégâts en 10. J'en ai tout pas conscient. Va y avoir des gros dégâts en 10. J'en étais pas conscient.
Tout le monde est conscient maintenant du besoin d'argent. Et comment au lieu, la cité a sa propre règle du jeu. Avec ses colissards et ses plus malheureux, on ne joue pas éternellement avec le feu. Sans se brûler, ne prends pas ça comme une moralité. J'essaie en vérité de te dire qu'un jour il faudra bouger pour ne pas rester prisonnier du béton. Et à plus forte raison des portes des prisons. Non, je ne prends parti pour personne, je donne mon avis. Ma philosophie prend ton genre, arrête ta vie. Car le business doit être une étape pour changer le cap. Prends en conscience avant que le mal alors ne te frappe. Ne t'attends pas de leur côté, ah, à de la compassion. La machine judiciaire se jouera le tout sort comme on se joue d'un pion. Attention à la sanction, n'oublie pas qu'alors que tu n'es qu'un parasite pour la nation. Un, ton avenir est entre tes mains, je dis. Deux, sache retirer à ton pépille du jeu. Pour le trois, j'accuserai les lois et l'état de quoi de toujours nous faire payer les dégâts.
The saga must continue.
I rock them off the streets.
Une petite pause, ouais, hein.
Voilà.
Oh, stylé.
Bien.
Ouais,
c'est
bon. Hey, Ophélie, je t'embrasse, c'est papa. Hein. Gros bisous, ma puce. Et attention à l'école, hein, sûr, hein, sinon papa, il arrive. Hein.
Et papa, pour l'instant, il fait le coiffeur à la maison d'arrêt.
Bah oui, j'apprends un métier, voilà. C'est la vie, hein.
Ah, moi, je voudrais dire que s'il y a des jeunes qui écoutent France Inter, bah, faut pas voler des voitures.
Surtout la mienne, hein.
Ah ouais, surtout les Ford Fiesta. Moi, je suis un voleur Ford Fiesta. J'ai volé au moins une trentaine, quarantaine de Ford Fiesta. Et à la 41e voiture, je me suis fait serrer.
T'as quel âge, toi?
Moi, j'ai 17 ans et demi. Je vais avoir mes 18 ans le 21 juin.
Moi, je prête son père. Quel âge? 40. Il me reste encore 3 ans, mais mon futur, on est en arrêt.
Et ça fait quoi de voir tous ces petits minots?
Ah, moi, ça me fait rien, moi. Des mineurs, bon, ce qui est dommage, c'est qu'ils arrêtent pas de faire des conneries, venir en prison. Ça, c'est dommage, quoi. Mais y a plus rien pour eux, de voir. Plus rien. Vas-y, dis.
Ouais. Tu sais, les conneries. Moi, personnellement, je suis jeune, tu vois, je suis un mineur, je fais des conneries parce que personne veut de moi au travail. Personne. Je fais des démarches pour travailler, mais personne. On me reconne. Et tu vois, là, c'est ça qui m'a foutu la rage après.
Oh, mais, faut les foutre plutôt dans le manuel, quoi. À place des foutre ici, faut apprendre à faire un petit boulot dans le manuel, et voilà, quoi. C'est vrai, à place d'être là, en train de regarder les barreaux et à écouter certaines choses des grands, voilà. En sortant, ils feront des conneries. Bah écoutez, moi c'est simple, moi je suis tombé la première fois, j'avais 17 ans, hein, et demi, moi c'est simple, hein.
Comme lui, voilà. Exactement comme lui.
17 ans et demi, j'ai fait mes 18 ans en prison, c'était à Fleury, dans le grand quartier en plus, ils m'ont foutu. Et bah regardez, bah je suis retombé 6 fois de plus après, voilà.
Voilà, et maintenant 40 et quelques.
Pourtant j'ai toujours travaillé dehors, mais je suis tombé quand même. Et tout ça, c'est parce que, bon voilà, dès que vous avez goûté ça, après, vous savez comment ça se passe là-bas, vous avez plus peur et vous retournez.
C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ça fait plus peur.
Voilà, et vous retournez, c'est tout. Vous comprenez que les petites peines, quand ils arrivent ici, qu'ils voient des mecs, des autres mineurs qui ont fait des braquages et tout ça, quand les autres, ils disent comme ça, ouais, nous, on se faisait de l'argent, nous, on gagnait de ça, on était bien sapés, on avait les gonzesses, on avait tout ça, ben, c'est normal que les autres, après, sont attirés dessus par la même chose. Hein? Eh oui.
Ah, et voilà. Et voilà, ce qui confirme ce chiffre terrible, 75 à 80% des jeunes qui passent dans ce genre de prison, hein, de centre de détention, ces mineurs délinquants, et bien récidivent. Et évidemment que en rencontrant des adultes comme ce coiffeur, ben voilà, ça, on voit très bien comment on se met sur les rails. Du mal, comme on disait autrefois. Beaucoup de ces jeunes sont complètement, effectivement, paumés, handicapés sociaux, comme je le disais tout à l'heure, et ont besoin, et il y a un sens quand même à la sanction et à la peine qui construit. Penser, c'est penser les limites. La liberté, c'est les limites. Et il faut évidemment des limites, des sanctions envers des gens, et nous tous d'ailleurs d'abord, mais spécialement envers des jeunes qui ne font pas de distinction toujours clairement établie entre ce qui est bien et ce qui ne l'est pas.
Bah moi, pour parler des filles, je dis que les tournantes, elles sont pas bien, c'est pas bien.
Tu connais des mecs qui ont fait ça?
Non, je n'en connais pas. Mais moi j'avoue, j'ai déjà violé une meuf, hein. À la parole bien sûr, pas au physique, j'ai déjà violé une meuf au physique. Bah ça veut dire la meuf tu lui parles, tu parles à la parole, tu fais des menaces à la parole, tu fais ouais, si tu baisses pas avec moi, tu sais tous mes potes là qui t'aiment pas là, ils vont te niquer ta mère si tu viens pas baiser avec moi là tout de suite là. Après la meuf elle a fait bon vas-y je baise avec toi mais tu dis à personne parce qu'elle savait très bien après qu'il y avait du monde derrière moi. Donc la meuf ça c'est un viol à la parole.
C'est pas bien ça.
C'est un viol, t'es d'accord, c'est exactement pareil.
Ouais c'est un viol. Dans un viol franchement ouais, j'avoue il y a de la violence. Il y a aussi de l'amour, parce que quand on veut violer une personne, c'est que, enfin, on l'aime aussi. Tellement on l'aime la personne, on veut lui faire l'amour, mais par la force. Et même si elle veut pas, on est obligé de lui faire l'amour.
Ouais, mais elle,
on s'en fout ce qu'elle veut.
C'est dangereux en France là. C'est dangereux maintenant. Moi, je suis pas d'accord. Moi. Une gonzesse, tu peux l'avoir par les sentiments, avec la gentillesse, tout ça, et par la beauté ou je sais pas moi.
Qu'est-ce qu'ils ont dit tes parents?
Mes parents? Bah pour le moment je les ai pas vus. J'ai reçu une lettre de ma mère, elle m'a fait. Ce qui m'a choqué dans la lettre de ma mère, là, que j'ai reçue tout à l'heure, c'est qu'elle a dit qu'elle me pardonnait pour toutes les conneries que j'ai fait. Et ce que je comprends pas, c'est qu'elle me pardonne quand j'arrive en prison. Pourquoi elle m'a pas pardonné avant que j'aille ici là. Ça m'a énervé ça.
Ça se passait comment à la maison avant justement?
normal, bien, normal, je sais pas. Mon père, je lui parlais rarement. Ma mère, je lui parlais très rarement. En fait, c'était une vie comme ça. Je rentre à la maison, je mange, je dors, je sors. Tu vois, des trucs comme ça. Je sors dehors, il y a des jours où je cherchais du travail. Mais quand je voyais que c'était mort, bah, je galérais avec mes potes. Après, on fumait, on faisait des petites conneries, vite fait, mais bon.
Concernant les mineurs délinquants, il y a deux notions qui s'opposent depuis longtemps, et spécialement depuis la fameuse ordonnance de 1945, entre l'éducatif et le répressif. Même si on peut considérer qu'il y a des formes éducatives qui peuvent être tout à fait répressives, et qu'il peut y avoir, ce que je disais à l'instant, des moments répressifs qui peuvent avoir une valeur pédagogique et constructive envers des jeunes qui savent pas très bien si c'est bien de violer comme ci ou comme ça, ce qui est quand même assez évidemment détestable. Alors, on dira, je suis sûr de ce qui se dit dans les derrière les transistors en ce moment, on a des micros qui traînent dans vos voitures et chez vous. Je plaisante bien évidemment. Je dis oui, oh bon, d'accord, là-bas si j'y suis, c'est des laxistes. Mais oui, c'est des laxistes. Ils sont très complaisants vis-à-vis de ces jeunes, mais il faut de la fermeté, fermeté, fermeté. C'est le cas, par exemple, si notre ministre de l'Intérieur écoute là-bas si j'y suis cet après-midi, il doit dire fermeté, fermeté. Fermeté. Voilà ce que dit le sociologue Laurent Bonelli.
Qu'il faille être ferme, c'est sans doute vrai. Effectivement, qu'il y a un certain nombre de délits et de crimes qui doivent être sanctionnés, c'est certain. Pour autant, je crois qu'un des mouvements qui est en train de disparaître dans notre société et qui est sans doute préoccupant, c'est que on a commencé à autonomiser finalement l'acte délinquant. Et je crois que le terme même de mineur délinquant est intéressant. Mineur délinquant. Si on réfléchit à ce qui peut être la personnalité d'un individu, c'est sans doute quelque chose de réducteur. Donc on a des gens qui ont une vie affective, une vie familiale, une vie scolaire, une vie professionnelle, et qui commettent des actes qui peuvent être des actes délinquants. Et justement, un des meilleurs moyens, je dirais, d'en sortir, c'est sans doute de comprendre l'ensemble de ces éléments-là pour comprendre ce qui conduit à la fois à la commission d'actes délinquants, et surtout, ce qui à mon avis doit être la solution que recherche notre société, c'est comment faire en sorte qu'ils n'en commettent plus. De ce point de vue-là, la prison comme école du crime, je crois que vous avez suffisamment bien montré dans vos reportages comment ça fonctionne, plus de 80% de récidives pour les mineurs qui sont incarcérés, c'est donc un échec patent pour qu'il n'y ait pas de récidive. Et pour en sortir, c'est relativement simple finalement. La question de l'en sortir, c'est à un moment donné que ces jeunes qui ont des comportements délinquants puissent se projeter dans autre chose. Se projeter dans autre chose qui leur permette, je dirais, à la fois de sauver leur fierté, c'est-à-dire de reconquérir une fierté de quelque chose.
Le respect.
Oui, le respect est très important. C'est-à-dire que, pensez que vous êtes sur des adolescents qui ont fait l'expérience à peu près de toutes les humiliations professionnelles et autres. Comment reconstruit-on finalement la fierté de soi? Permettre et penser finalement cette reconstruction de l'estime de soi, c'est le meilleur moyen de sortir et de sortir définitivement de cela. On entend des discours sur les jeunes délinquants de plus en plus jeunes, de plus en plus violents, de plus en plus récidivistes. Il faut savoir que c'est faux. La plupart des études sociologiques qui ont été menées sur la question montrent qu'on a des jeunes qui effectivement ont des comportements délinquants, 18, 19, 20, 21, et qui à un moment donné raccrochent. Et là-dessus, vous avez des témoignages policiers et judiciaires également qui confirment ces éléments-là en disant « bah oui, il y a des jeunes qui disparaissent de la chaîne pénale, du système policier, etc. » Et quand est-ce qu'ils disparaissent? Ben, c'est qu'ils raccrochent. Et ils raccrochent comment? Ça peut être quand ils trouvent une copine stable, un petit boulot, un appart, etc., etc. Et je crois que aujourd'hui, on se refuse finalement de penser cet ensemble finalement de ce qu'est une histoire de vie, c'est-à-dire penser la délinquance comme quelque chose qui se passe dans une histoire de vie et se donner les moyens d'en sortir, avec des discours sur la question de la responsabilité individuelle, du calcul coût-avantage, le délinquant choisit la délinquance en fonction d'un calcul rationnel, qui sont tout un tas de justifications qui viennent, comme par hasard, la sociologie est sans doute ainsi faite, à un moment où les effets des politiques libérales menées dans notre pays se font sentir sur ces quartiers-là. Je crois que aussi longtemps qu'on n'aura pas compris qu'il faut sortir de cette équation-là, que les discours politiques qui jettent sur ces jeunes-là la responsabilité individuelle de leur situation, je dirais, on ne pourra pas se donner les moyens d'en sortir. et l'ensemble de la spirale sécuritaire dans laquelle on s'engage, de transformation, c'est-à-dire de plus en plus de policiers dans ces quartiers, de la transformation de la justice, c'est-à-dire l'accélération des procédures, qui aujourd'hui, on peut parler de justice d'abattage pour les petits délits qui ont lieu dans ces quartiers. C'est l'objet du traitement en temps réel de la délinquance, c'est l'objet des chambres de comparution immédiates. Cette espèce de fuite en avant ne pourra que remplir davantage les prisons, et je dirais jusqu'à les faire saturer, jusqu'à ce qu'on ait construit de nouvelles prisons. Et nous venons, et c'est surtout cela qui est dramatique, que renforcer encore plus ces jeunes à la sortie de la prison, en les faisant plus délinquants encore qu'ils n'étaient avant d'y rentrer.
Hé, hey, journaliste, repassez-vous! Allez vous faire foutre! C'est pas le moment de... C'est pas le moment d'écouter les gens, là! Allez vous faire foutre! Bande de poissons!
Il y en a encore, moi par exemple quand je suis à l'école, il y a des boucs qui sont des autres quartiers, c'est pas mon secteur, moi je parle pas avec eux, t'as vu. Mais on serre quand même la main, on est en classe, la même chose, on est obligé de taper à discuter.
Bah ouais.
Des fois on est obligé de taper à discuter, avec demander un stylo, c'est ça maintenant. Et quand on est dehors, on va dans son commercial, c'est là, c'est une zone à personne. C'est comme si c'est un territoire, c'est une territoire à personne, et eux ils veulent gagner le territoire, c'est ça qu'ils veulent gagner.
Voilà, ouais, ça, ouais. J'avoue, ça sert à rien.
Des fois c'est, on sait même pas pourquoi. L'analyse, ouais, bah, il sait même pas pourquoi.
Et moi, je dis franchement, les frères, ça sert à rien. Hein. Ça, mais maintenant qu'on est obligé de représenter, on représente. Hein. Maintenant, on va pas se faire taper dans la gueule sans rien faire. Hein.
Troupeau de loups.
Ah ouais.
Troupeau de loups.
Ah voilà. En fait, tes quartiers, ouais, ils nous ont mis dans des cages et nous, on est des lions, nous.
Sauf qu'ici, c'est la cage d'après, quoi. C'est la plus grosse cage.
Ici, maintenant, ça, c'est la cage pour nous remettre. Pour eux, ils croient que la prison, ça va changer quelque chose. Moi, je vous dis, y en a, ils sont déjà fait traumatiser. Je vois, je connais des mecs, comme là, je vais dans mon quartier, ils parlent toujours comme s'ils sont en prison. Même des mecs, tellement ils sont habitués à y aller là-bas, ils me disent quoi? Ah, putain, je voudrais bien faire un mois, deux mois, voir quelques potes à moi et vite faire ressortir. Des mecs comme ça, c'est eux que la prison, ça leur a traumatisé. Mais maintenant, ici, on a tous un mot, garde la pêche. Si t'as pas la pêche, laisse tomber.
Voilà, c'est ça, voilà. Garde la pêche.
Garde la pêche.
On sort d'ici.
Voilà.
Maman, t'inquiète pas, maman, t'inquiète pas. Tu rendras la plus joyeuse de toutes les mères, maman. Je voudrais que tu sois content de moi. Papa. Je voudrais donner l'exemple à mes frères et sœurs. Mais je crois que j'en ai peur. Peur d'affronter la réalité. De ne pas y arriver. Ils laissent pas le choix ici. T'inquiète, j'ai la foi. Ils font tout pour qu'on ne réussisse pas. On nous aide pas. On nous laisse tout en bas.
Teddy, Céline, Ahmed, Abou, Eddy, Jonathan, merci. Merci à Monsieur Areski, Madame Vitton, à Christophe, Nadia, Véronique, le colonel, merci. Merci à Laurent Bonelli, qui est l'auteur avec Gilles Senati de La machine à punir, pratique et discours sécuritaire à l'esprit frappeur. Et c'est sorti en 2001. Et puis je vous signale aussi un bouquin dont je vous ai déjà parlé, Au pied du mur, 765 raisons d'en finir avec toutes les prisons. C'est à l'insomniaque. C'était un reportage de Guy Vanctil, technique aujourd'hui Étienne Michka et Patrick Henry. Le répondeur, c'est le 01 56 40 37 37, et c'est Christophe Imbert qui vous écoute. Choix musicaux, Colien Guyenne et Antoine Chao qui a réalisé cette émission. Modeste et génial.